Marc, notre stagiaire et moi, cette semaine, mardi, on a vécu une expérience SNCF assez remarquable. Nous étions dans une pastorale à Marseille avec les autres pasteurs des églises évangéliques libres de la région PACA, Marseille, Aix-en-Provence, Avignon, Nîmes, etc. Et on va à la gare Saint-Charles à 3 heures pour rentrer à Cannes et on est arrivé à Cannes à 21 heures. On a mis 6 heures pour faire 180 km. Alors, dans le train, on a parlé 6 heures. Allez, 5 heures et demie, on va dire. On a refait le monde. Et puis, on a eu l'idée de faire une série de prédications qui aurait pour thème un petit peu l'évangile et les idées reçues, contre les idées reçues, et les prédications commenceraient toutes par un titre qui commence par ces deux mots, dans la vie, ou ces trois mots, pardon, dans la vie. Et donc on va faire une série sur ces expressions qui commencent par dans la vie. Alors je ne sais pas si on va parler des cactus, dans la vie, il y a des cactus, je me pique de le savoir, mais je vous donne l'occasion pendant ces prochaines semaines, si vous avez des phrases qui commencent dans la vie et qui sont un peu des idées reçues, faites-les nous savoir. Mais voilà, on est parti. Et dans la première idée reçue, c'est dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite. Et quand, en général, on dit cette phrase, dans la vie, on a ce qu'on mérite, il y a toujours quelqu'un qui va dire, oh oui, ça c'est bien vrai. Ah oui, c'est vrai. Peut-être vous le pensez ce matin, dans la vie, on a ce qu'on mérite, quoi. Et c'est ça les idées reçues, c'est quelque part, c'est un peu vrai. Et c'est pour ça qu'elles sont reçues si facilement, ces idées reçues. C'est parce qu'elles ont un côté tout à fait véridique. Et c'est vrai, dans la vie, on a ce qu'on mérite. Si vous garez votre voiture sur la place du marché alors qu'il y a marché le lendemain, le dimanche matin, vous allez retrouver la voiture à la fourrière. Pour l'avoir vécu, il y a bien longtemps, quand j'étais jeune et un peu insouciant, je peux vous dire que vous avez beau essayer d'argumenter avec le type de la fourrière, rien n'y fait. Il ne fallait pas, monsieur Van der Douce, garer votre voiture sur la place du marché alors qu'il y a le marché le lendemain. Et j'ai eu ce que je méritais. 2000 francs belges d'amende à l'époque. Je vous laisse faire la conversion. C'est compliqué. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Quand on fait ce qu'il faut, on peut s'attendre à ce que l'on soit récompensé pour ce que l'on fait de bien. On dit à nos enfants ou à nos élèves, il y a quelques professeurs parmi nous, que s'ils font des efforts, ils seront récompensés par de bonnes notes, et puis après par un passage vers la classe supérieure, et puis après un beau métier avec qui gagnent pas mal d'argent. Vous allez être récompensé parce que vous le méritez. Dans la vie, on a ce qu'on mérite, c'est un principe de l'éducation. Et on l'a compris, le principe de « dans la vie, on a ce qu'on mérite » ne vient pas du principe, le problème ne vient pas simplement du principe, mais de sa généralisation. Et dans le titre, il y a le « que ». Dans la vie, on a que ce qu'on mérite. Un principe du mérite qui deviendrait quasi absolu. Et c'est cette généralisation du principe du mérite qui, dans tous les domaines de notre vie, pose problème. Alors en googlisant le mot mérite, j'ai eu plein d'infos, des images de diplômes, le mérite agricole, c'est quand même magnifique. Ça fait partie, il a mérité. Mais aussi un article, alors j'ai une petite image, idée reçue, vrai, faux, faux, vrai. Et puis après, un article dans le Courrier international qui parle du problème avec le mérite. Le mérite, dit le journaliste, est devenu comme une machine à justifier toutes les inégalités, y compris les moins justifiables. Serait mérité le cancer pour qui n'a pas participé au dépistage, et le chômage pour qui n'a pas tout fait afin de rester dans la course. Et serait tout aussi logiquement mérité la fortune pour celui qui a su faire les bons placements. Et plus loin, l'étranger doit mériter son séjour par des compétences utiles au pays d'accueil. L'artiste méritait des subventions publiques en s'efforçant de réunir aussi des fonds privés. Et ainsi de suite. Le mérite à tous les niveaux. Même pour justifier l'injustifiable. Oui, le mérite pose problème quand on le généralise, quand il a, on va dire, l'exclusivité sur notre vie ou le monopole. Mais il y a des problèmes avec ce principe du mérite et je voudrais en citer trois. D'abord, que le principe du mérite ne fonctionne pas toujours. On doit se rendre compte que parfois, il y a des gens extrêmement méritants qui n'obtiennent pas ce qu'ils méritaient, on va dire, ce qu'ils pouvaient attendre. Des élèves, par exemple, qui travaillent dur et qui pourtant échouent à leurs examens. À l'inverse, on a parfois des gens qui prennent des risques énormes dans la vie et qui ne récoltent aucune conséquence. Il y a des gens qui ont fumé pendant 40 ans deux paquets de Gauloises sans filtre et qui n'ont pas le cancer du poumon. Très peu. Mais ça arrive. Normalement, selon le principe du mérite ou selon la sagesse populaire, qui sème le vent récolte la tempête. Ils auraient dû y passer depuis longtemps, ces fumeurs de gitanes ou de gauloises. Ça existe encore, ces marques, d'ailleurs, j'en sais rien. L'exemple aussi de gens qui sont des véritables, allez, disons-le, crapules. Ça existe, hein. Pas parce qu'on est chrétien dans l'Évangile, qu'on aime tout le monde, qu'on est dans un monde de bisounours. Il y a des crapules dans la vie qui font le mal à qui mieux et qui pourtant réussissent bien dans la vie. Je ne dis pas qu'ils réussissent leur vie, mais qu'ils réussissent dans la vie. Et ça nous surprend à chaque fois, comme ça en a surpris d'autres, et en particulier l'auteur du psaume 73, Asaph, dont Yvonne nous parlait il y a 3 semaines, et qu'on aime tous les deux, Asaph. Asaph, il voit des méchants, des crapules, qui s'en sortent super bien dans la vie. Alors qu'Asaph, lui, il a le principe du mérite. Et voilà ce qu'il dit. Et pourtant, il s'en est fallu de peu, lui qui cherche à être intègre devant Dieu, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent un peu plus. Et je tombais, j'étais jaloux des arrogants et voyais la prospérité des crapules. Car ils sont exempts de souffrance jusqu'à leur mort, ils ont santé et en bon point. Ça le trouble, ça l'étonne, parce qu'il fonctionne, Asaph, l'auteur du psalmiste, un petit peu au mérite et à la rétribution, et de le voir contredit autour de lui, le principe du mérite, de voir les méchants qui prospèrent, ça le trouble, ça le remet en question. Le mérite n'est peut-être pas un bon critère dans la vie. Ça ne fonctionne pas toujours. Et deuxième problème, avec le principe du mérite, qu'est-ce qu'on fait avec les non-méritants ? Avec le mauvais élève de la classe, avec celui qui n'a pas beaucoup de mérite dans la vie. Qu'est-ce qu'on fait avec celui qui ne sort pas du lot ? Qu'est-ce qu'on fait avec Calimero ? De trop injuste. Qu'est-ce qu'on fait avec Homer Simpson ? Qui n'est quand même pas un méritant, hein ? Il est toujours en slip d'ailleurs, il est toujours en... Qu'est-ce qu'on fait avec Gaston Lagaffe ? Hein ? Qui est le professionnel de la sieste et des cadences infernales. Parce que le principe du mérite crée, il faut bien le dire, un certain élitisme, une certaine sélection. Il y a un président qui parlait de la méritocratie. Mais quand on ne fait pas partie de l'élite, que devient-on ? Eh bien, c'est assez clair, on est mis sur la touche. On est mis de côté, on ne s'occupe plus de vous, en tout cas beaucoup moins, et cette société qui juge sans cesse nos performances, nos compétences, nos mérites, nous jette les uns après les autres sur les bas-côtés de la vie. Le principe du mérite fait des dégâts dans nos rangs. Que fait-on avec les non-méritants ? Et si ce non-méritant, c'était moi ? Et puis, dernier problème avec ce principe que dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite, c'est de savoir qui place le curseur des mérites. À partir de quand on est méritant et à partir de quand on ne l'est pas. Alors dans les écoles, il y a des examens, il y a des interros, au travail, il y a de temps en temps des entretiens annuels, hein, où on peut, mais dans la vie en général, qui juge du mérite de l'un ou de l'autre? Est-ce que c'est la classe dirigeante, la nomenclatura, l'intelligentsia, qui décide des mérites attribués au peuple, à la plèbe? Il y a le problème de qui place le curseur, et puis le problème de où est-ce qu'on place le curseur. Qu'est-ce qu'on vise? L'excellence, le très bien, la moyenne à tout le monde, ou tout le monde a gagné, comme dans l'école des fans de Jacques Martin? Qui juge qu'un tel comportement doit être récompensé et qu'un autre mérite une punition? Il y a le code pénal, en général, mais pour tout le reste, qui rédige le règlement d'ordre intérieur? Le principe du mérite est très subjectif, en fait. Il y a des problèmes avec le principe du mérite, le principe généralisé du mérite, et en particulier quand il se généralise dans la question de la religion. Toutes les religions, ou la plupart des religions, si ce n'est toutes, hein, ont adopté le principe du mérite dans leurs croyances. Parce que toutes les religions, presque toutes, sont basées sur le principe qu'il faut chercher la faveur de Dieu, que quelque part, il faut mériter Dieu, mériter sa faveur. Pour cela, il faudrait respecter tel ou tel principe moral, accomplir tel ou tel acte de charité, ou se plier à tel ou tel rite, et le faire exactement, sinon Dieu va se fâcher, Dieu, on ne mériterait pas sa faveur. Et si on parvient à faire toutes les choses bien, on va se rendre la divinité favorable. Si on construit une tour de Babel, on va peut-être toucher le ciel. Et c'est là que peut-être l'idée, le principe du mérite est la plus dévastatrice et trompeuse, et qu'elle nous mène dans le domaine de la religion dans une voie sans issue. Pourquoi? Parce que tout simplement le principe du mérite ne fonctionne pas avec Dieu. Et là je change de nom, je ne parle plus de la divinité, je parle de Dieu. Le Dieu tel que nous le révèle la Bible, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, un Dieu transcendant, un mot un peu technique, qui veut simplement dire qui nous dépasse, qui est grand. Il y a un film qui disait « Dieu est grand et moi je suis toute petite ». Il nous dépasse, il est grand, il est l'infini, il est l'absolu, il est aussi l'absolu bien, l'absolument bien. On l'appelle le Dieu trois fois saint, pas parce qu'il faut répéter trois fois saint, c'est qu'il est pleinement saint, tout à fait saint, le bien absolu. Et il a des critères très élevés en matière de perfection, en matière de bien. Le curseur de Dieu est très très haut. Alors à la question, est-ce qu'on peut mériter Dieu? Ben non, on ne peut pas mériter Dieu. Il est transcendant, il nous dépasse, il est absolument tout, il est absolument bon et beau et bien. Et on peut faire toutes les œuvres méritoires possibles et imaginables, comme par exemple aller à genoux d'ici à la Madone de Fenestre dans le Mercantour. Ça ne va pas faire avancer les choses. Enfin, peut-être les affaires du kinésithérapeute ou de l'orthopédiste qui devra réparer vos genoux. Non pas que Dieu soit insensible au bien que nous pouvons faire, mais on sera toujours trop court pour atteindre par nos propres mérites ces standards de perfection qu'il a pour nous. Au Parcours Alpha, jeudi soir, c'était la question « Pourquoi Jésus est-il mort ?» Alors évidemment, on a parlé aussi du péché. Jésus est mort pour nos péchés. Le mot péché, un mot difficile à comprendre, à appréhender, à accepter pour tout le monde. Surtout quand on est concerné par le péché et qu'on nous appelle pécheurs. Mais on comprend peut-être mieux quand on revient à l'étymologie, alors je me répète hein, par rapport à jeudi, du mot péché en grec, la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit, étymologiquement ça veut dire rater la cible. Manquer la cible, amartia, avec le A privatif grec, pas de cible. Rater la cible. Et si on fait le parallèle avec les standards de Dieu, le péché, c'est manquer la cible. C'est être trop court. La direction est peut-être bonne. Alors là, je vais prendre une image du rugby. Le meilleur sport devant l'Éternel, après le curling. Et donc, quand il y a une pénalité à 60 mètres des poteaux, vous savez, pour marquer 3 points, les transformations, c'est 2 points, la pénalité, c'est 3. Bon, bref. Et on peut, le gars s'avance, il tire, la direction est bonne, l'intention est bonne, il veut faire bien. Le buteur, Ramos, veut faire bien, mais à 60 mètres, il est trop loin et son tir est trop court. L'intention est bonne, mais les poteaux sont trop loin, son tir est trop court, il manque la cible. Et on rate, quelque part, la faveur de Dieu parce qu'on n'arrive pas à ses standards élevés. Alors vous me direz, Dieu, il a qu'à baisser ses standards. Mais si Dieu baisse ses standards, il n'est plus Dieu. Il est un Dieu à mon image, il est un Dieu au rabais, il est un Dieu avec qui je m'arrange. Si Dieu a baissé ses standards, il n'est plus Dieu, mais Dieu est Dieu, non d'un petit bonhomme. Et le problème vient du fait que nous pouvons, nous pensons que par nos mérites personnels, atteindre les standards élevés de Dieu, ou du moins sa faveur. Je vous raconte une histoire avec le pasteur Bill, qui m'a accompagné pendant 20 ans. Enfin, de loin, enfin, non. Mais une fois, il a raconté une histoire qui m'est restée, à moi personnellement et aux 6000 personnes qui étaient là pour la conférence. Donc, ce n'était pas personnellement. Mais il raconte qu'il est dans un avion, à l'intérieur des États-Unis, dans un vol domestique, comme on dit. Il commence à discuter avec son voisin qui s'appelle Bob, qui est un commercial des plus normaux, un costume relax, téléphone portable, ordi portable sur les genoux, whisky coca. Et la conversation s'engage entre le pasteur Bill et Bob, et comme Bill est un pasteur méritant, entre guillemets, elle s'engage sur la question de la foi, la conversation. Alors, Bill apprend que Bob va 2 fois par an à l'église. Il est très très content que ses enfants aillent au catéchisme ou à l'école du dimanche, à Sunday School, parce qu'il pense que c'est vraiment bien qu'ils aient des valeurs solides dans la vie. Mais pour lui, il ne se sent pas vraiment le besoin d'aller plus loin, il se trouve bien dans la moyenne. Alors le pasteur Bill, toujours en forme, va prendre une serviette en papier à l'effigie de la compagnie aérienne, American Airlines, et puis il va faire, avec son stylo, il va dessiner une échelle avec les abscisses et les ordonnées. Et en haut, Dieu et ses standards élevés. Et puis, sur la verticale, mes mérites par rapport à Dieu. Et il va noter tout en bas, le pasteur Bill, tout en bas, des personnes vraiment terribles, Hitler, Pol Pot, Cambodge, Staline, qui a des millions de morts sur la conscience, Mao, lui aussi. Vous pouvez ajouter la liste des gens de ces mécréants. Et puis, Bill donne son stylo. Alors, et toi, Bob, où est-ce que tu te situes? Alors, Bob prend le stylo et puis il se dit, quand je vais me mettre, quand même, comme je suis quelqu'un de pas mal, je vais me mettre assez haut sur la liste. Et puis, Bill lui dit, attends un peu. J'ai lu beaucoup de livres de Mère Teresa, j'ai vu ses vidéos, et j'ai bien compris qu'elle se sentait très très petite, Mère Teresa, par rapport à toutes les exigences de Dieu, du Dieu trois fois saint. Et elle voit une grande distance entre ce qu'elle devrait faire et ce qu'elle fait effectivement. Et elle se situerait sur le dessin, Bill prend son stylo, et écrit Mère Teresa, à peu près aux deux tiers, là, ou un tiers, deux tiers. Ah, parce que le Bob est un peu, il ne va pas se mettre au-dessus de Mère Teresa quand même, ça ne le fait pas. Donc il se dit, je vais juste me placer en dessous de Mère Teresa. Et puis le pasteur Bill, toujours en forme, dit, ah, ben attends, avant de te parler, j'ai bien connu l'évangéliste Billy Graham, qui est passé à Paris dans les années 80, à Bruxelles en 75, à Londres dans ces mêmes années. Qui a suscité des réveils vraiment, qui a annoncé l'évangile à les gens. Et surtout, ce n'était pas un évangéliste comme on en a connu, un petit peu borderline. Non, il n'a jamais été pris pour des problèmes moraux ou des problèmes financiers. Et Bill l'a rencontré et il sait que Billy Graham se sent très loin des exigences de Dieu à son égard, et il se situerait bien en dessous de Mère Teresa. Et où est-ce que tu te situes, Bob ? Ben Bob, il s'aperçoit qu'il ne va pas se mettre au-dessus de Billy Graham, donc il ne reste plus beaucoup de place. Et il commence à être dans la zone relégable. Et Bill continue. Et Bob commence un travail intérieur, un travail non pas d'auto-dépréciation, mais un petit peu d'honnêteté. En fait, où est-ce que je me trouve vraiment sur l'échelle des mérites ? Pas très haut par rapport à ce qu'on pourrait attendre de moi. Je suis trop court par rapport à Dieu, et ça c'est la vérité de Dieu sur une serviette en papier, dans un avion. Et Bill, donc, lui propose de continuer la conversation sur le sujet, et s'il peut lui parler de l'Évangile, Bob ne dit rien, mais ses yeux disent oui. Et à la fin de la conversation et du vol, Bill dit à Bob que s'il voulait prendre une décision pour Dieu, il pouvait signer la serviette en papier avec le schéma comme un acte personnel. Alors Bill ne sait pas s'il l'a fait. Le pasteur Bill nous l'a raconté. L'avion a atterri à Chicago. Une histoire vraie de cette échelle des mérites et l'histoire que Bill a racontée après, à Bob, c'est certainement la réponse de Dieu par rapport à la question des mérites, parce que sur l'échelle des mérites, nous ne pouvons pas prétendre à grand-chose. Dieu introduit un autre principe dans le monde, celui de la grâce. C'est-à-dire un amour qui n'est pas conditionné par le mérite, mais juste par l'amour. Une faveur, et c'est ça la définition de la grâce, un cadeau immérité, qui ne dépend pas de nos mérites. Et Jésus en parle tellement bien de la grâce. Et surtout dans une histoire qu'il invente. On appelle ça une parabole. C'est une histoire inventée. Et c'est l'histoire du fils prodigue. Fils prodigue, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais très vite, c'est l'histoire d'un fils, en fait de deux fils, mais un fils qui tout d'un coup Il a besoin d'aventure, il réclame l'héritage à l'avance de son père. Ça ne se fait pas dans la société du Nouveau Testament de l'époque, de demander l'héritage du vivant de son père. Ça ne se fait pas non plus trop aujourd'hui, mais à l'époque c'est un scandale. Hein. Mais lui, il le demande et il dépense tout. Il mène une très mauvaise vie, une vie sans beaucoup de moralité. Il a tout dépensé, c'est pour ça qu'il est prodigue. Il dépense, il est dispendieux. Et alors qu'il se trouve dans la misère, ce jeune homme se dit qu'en fait, il était beaucoup mieux chez son père. Ah bah ouais. Et il décide de rentrer. Et ce qui est intéressant, il n'y a pas de portable à l'époque. Mais le père, quand le fils prodigue revient, le père est là. Sur le pas de la porte, comme si tous les jours, il était là pour l'attendre. Et ce qu'il fait, c'est le père, il court à la rencontre de son fils, il se jette à son cou et il l'embrassa longuement, longuement, contre toute attente, alors que ce fils lui a craché dessus en demandant l'héritage par avance, l'a nié, dénigré, renié. Il court vers lui, il l'embrasse longuement et il l'accueille. Même le fils lui-même en est un petit peu gêné. Je le vois bien là, le bras ballant, un peu. Et il dit, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite pas d'être appelé ton serviteur, ton fils, d'être considéré comme ton fils. Traite-moi comme un serviteur. Je ne mérite pas. Et le fils prodigue, il est sur le principe du mérite. Mais le père, il n'en a rien à cirer du principe du mérite. Il n'est qu'amour. Il lui donne des vêtements neufs. Il lui passe une bague à son doigt. Il le met à la place d'honneur. Il ordonne une belle fête avec le veau gras. Car le fils qui était perdu est maintenant retrouvé. Et Jésus ne nous raconte pas cette histoire pour nous parler de la crise d'adolescence ou des problèmes avec les générations X, Y, Z, qui ne font pas comme nous on faisait à l'époque. Non, il donne une illustration de la grâce, de l'accueil de Dieu, de la joie de Dieu, de la joie du Père, alors que le Fils ne méritait pas amie humaine, et qu'il aurait surtout mérité d'être sermonné, peut-être même puni, corrigé. Tu n'aurais pas dû, au lieu de cela, aller vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales, amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le, nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Ça, c'est la grâce de Dieu, et c'est Jésus qui en parle le mieux, et c'est Jésus qui incarne même le principe de la grâce de Dieu. Alors que tout le monde cherche à s'élever comme la tour de Babel par ses mérites, par ses expertises, comme on dit aujourd'hui, par ses capacités pour toucher le ciel en comptant sur ses mérites personnels, Dieu, lui, descend. Il n'abaisse pas ses standards, mais il descend, il s'abaisse lui-même en Jésus-Christ, qui vient à nous en tant qu'homme et qui vit pleinement les standards élevés de Dieu, des standards de perfection, homme parfait, sans péché, pourtant tenté comme un homme, on l'a vu dernièrement aussi, mais il vit parfaitement et il vit en lui les standards parfaits de nous, les standards parfaits, pardon. Et il meurt à la croix. Et la croix, c'est vraiment le symbole évident de cette grâce, même pas un symbole, manifestation. Alors que nous ne méritons rien, sinon de rester trop court dans notre vie et à rester loin de Dieu, avec toujours cette impression d'avoir raté la cible, d'avoir manqué quelque chose. C'est ça un petit peu la vie, loin de Dieu. J'ai l'impression d'être à côté de mes pompes. J'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose. J'ai une petite culpabilité derrière. Eh bien, à la croix, Jésus prend tout sur lui, tous nos actes manqués, tous nos ratages, tous nos trop courts. Et ce qu'il y a d'extraordinaire à la croix, c'est que dans son amour incroyable pour nous, dans son accueil inconditionnel, quelle que soit la distance où nous étions de Dieu, Jésus prend à notre place ce que nous aurions mérité. Nous aurions mérité la séparation d'avec Dieu, ce que la Bible appelle la mort. Puisque nous étions, par nos mérites personnels, trop courts pour atteindre la vie de Dieu. Et Jésus prend sur lui cette séparation, cette distance qui nous sépare de Dieu, et il le peut parce qu'il est Dieu, parce qu'il est l'homme parfait qui répondait aux standards élevés de Dieu. Grâce à Jésus, nous n'avons pas ce que nous méritions, la séparation, et nous avons ce que nous ne méritions pas, l'amour, le pardon, la vie éternelle. Et ça, c'est la définition de la grâce. Ne pas récolter ce que nous méritions, mais recevoir ce que nous ne méritions pas. Et Jésus est cette grâce de Dieu. Et pour moi, c'est extraordinaire. Alors, vous me direz, si c'est extraordinaire, pourquoi tout le monde n'est pas chrétien ? En voilà une question qu'elle est bonne. Parce qu'on a des problèmes avec la grâce. Et le problème avec la grâce, c'est qu'elle n'est pas dans nos habitudes. Elle ne nous est pas naturelle, elle n'est pas dans nos intuitions, alors que le principe du mérite est tout à fait naturel, inscrit dans notre culture, dans nos méthodes et de fonctionnement, dans nos us et coutumes. La grâce nous surprend, la grâce nous étonne. On pourrait même dire que la grâce nous paraît quelque part injuste. Et la personne qui illustre bien ça, c'est le frère aîné de l'histoire des deux fils. Il y a le fils prodigue et il y a le frère aîné. Et le frère aîné, quand il apprend tout ce qui se passe entre son père et son frère cadet, pique une colère monumentale. Il ne comprend pas la grâce du père. Lui qui est resté fidèlement à la maison, qui a travaillé, qui a obéi à son père, quand son frère revient, et surtout quand il voit l'accueil que lui fait son père, il va tout remettre en question. On peut appeler ça de la grâce, mais lui, il appelle ça une injustice. Parce que lui, il a tout bien fait. Parce que lui, il mérite. Il est sur le principe du mérite. Et l'accueil du père pour le fils cadet, qui ne mérite rien, le met dans une colère ou dans une incompréhension, dans un sentiment d'injustice assez incroyable. Mon frère, il est allé avec les prostituées et toi, tu n'as jamais fait la fête pour moi. Et pour lui, tu lui tues le veau gras qu'on a engraissé depuis des mois. Mais ça ne va pas, non. Il ne le mérite pas. Moi, je le mérite. Et tu ne fais rien pour moi. Et pourtant, le père, et c'est intéressant dans l'histoire, il sort aussi de la fête pour aller rejoindre son fils aîné. Et lui dit, viens avec nous. Viens pour la fête. Mais le fils aîné, et on ne connaît pas la fin de l'histoire, mais le fils aîné, il reste les bras croisés parce qu'il ne comprend pas la grâce. Il est sur le mode méritoire. Mais le père ne l'est pas. Et il accueille ses deux fils de la même manière. Et le fils aîné est là pour nous rappeler que nous avons des problèmes avec la grâce. Parce qu'elle ne nous est pas naturelle. Et c'est normal qu'elle ne nous soit pas naturelle parce qu'elle est surnaturelle, parce qu'elle vient d'en haut, cette grâce. Elle est la réponse de Dieu à nos problèmes, et en particulier du problème du trop court dans notre vie, du péché, du mal. Elle est d'ailleurs même la seule solution possible, celle qui vient de Dieu lui-même. Et puis il y a un deuxième problème. Alors il y avait un autre exemple de l'incompréhension par rapport à la grâce, c'est les embauches à différentes heures qui sont payées la même chose. Bref, le deuxième problème, on n'aime pas les cadeaux qu'on ne peut pas rendre. Vous êtes d'accord ? Et là, il y a un super film, le titre c'est Jeremiah Johnson, avec une super musique, avec des Indiens, un trappeur, Robert Redford, en plus le préféré de ma femme à l'époque. Et avec de la neige en plus, j'aime bien la neige, voilà, c'est le truc. Ben alors, ce qui est intéressant, il y a une scène où le trappeur visite un village d'Indiens et il fait des cadeaux au chef, des merveilleuses fourrures. Mais problème, le chef indien, il fait une tête pas possible. Il est pas content, il s'enferme. Il y aurait comme un problème, parce que dans cette tribu, c'est un affront que de faire des cadeaux que l'autre ne peut pas surpasser en retour. On est dans le principe un petit peu du mérite. Et à la fin, tout va s'arranger parce que le chef va offrir sa fille, une magnifique squaw. Et Robert Redford va lui apprendre l'anglais. Quel magnifique cadeau quand même d'avoir des cours d'anglais avec Robert Redford. Donc c'est un cadeau pour tout le monde. On n'aime pas les cadeaux qui nous mettent dans l'embarras. Et la grâce de Dieu nous met dans l'embarras, nous met dans la gêne. On préférait recevoir un cadeau parce qu'on a été quelqu'un de sympa, parce qu'on a bien travaillé. Mais celui-là, ce cadeau de la grâce, c'est pas dans cet ordre-là, et c'est ce qui le rend difficile à accepter. Quoi? Il est immérité? Ça dépend pas de mérite, de mes mérites? Mais c'est trop facile! Mais c'est trop simple! Et c'est justement cette simplicité qui le rend difficile, parce que ça demande un truc qui ne se fait plus depuis très longtemps, l'humilité de recevoir un cadeau immérité, un abandon, un lâcher-prise par rapport à ma prétention de pouvoir mériter la faveur de Dieu. Je dois pouvoir simplement accueillir la grâce de Dieu. Et c'est la première chose à faire avec la grâce, accueillir cette grâce de Dieu pour soi-même. Parce que on peut être prêt à accepter l'existence de Dieu. On peut après être prêt à croire que Jésus-Christ est vraisemblablement plus qu'un charpentier. On peut être prêt à penser qu'il y a de bonnes raisons pour croire en l'existence de Dieu et en même celle de Jésus-Christ, mais cela ne fait pas de vous un chrétien. Il reste cette grâce à accepter avec humilité. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Dans votre chambre ou avec quelqu'un de confiance. Simplement dire oui au cadeau de Dieu, la grâce. Dire non au principe du mérite et accueillir la grâce. Et puis deuxièmement, parce que chasser le naturel et il revient au galop, chasser le naturel du principe du mérite et il revient au galop. Au galop, se prêcher soi-même chaque jour l'évangile de la grâce. Parce que on peut avoir accepté la grâce, mais le mérite grignote chaque jour. Et il reprend, et on reprend nos vieilles habitudes de vouloir mériter Dieu. Et il nous faut donc, en tant que chrétiens, se rappeler chaque jour que nous ne sommes plus sous le principe du mérite, mais celui de la grâce. Se replacer sous les mains. C'est un détail du tableau de Rembrandt, on s'aperçoit que les mains du Père, il y a une main plus féminine et l'autre plus masculine. Se replacer sous les mains du Père de la grâce. Lire la Bible qui parle de la grâce. Lire la Bible ensemble, en Église. Mettre des textes bibliques dans sa salle de bain, Dieu est grâce. Et puis, dernière suggestion pour la route, regardez les autres avec les yeux de la grâce. Ça change tout aussi dans la vie. Et ça, c'est les conséquences de cette grâce de Dieu. J'aime ce verset dans l'Épître aux Romains qui dit « Comme Christ vous a accueillis, accueillez-vous les uns les autres. » Comment il nous a accueillis? Avec la grâce, sans compter nos mérites, sans compter nos fautes, il nous a accueillis avec grâce. Eh bien, parce que nous avons compris l'accueil de Dieu dans sa grâce, nous pouvons regarder les autres avec les yeux de la grâce. Et c'est tellement important de regarder les autres avec les yeux de la grâce. Dans son couple, avec ses enfants, avec sa famille, ses collègues au travail, ça c'est plus dur. Mais ne pas regarder avec le principe du mérite qui dirait « moi il ne mérite pas mon amour, il ne mérite pas mon amitié, il ne mérite pas ma collaboration ». Tout ça qui nous tue et qui nous met dans la spirale du chaos et de la haine. Mais regardez les autres avec les yeux de la grâce. C'est ce que le Seigneur nous invite à faire. Accueillir la grâce, se prêcher à soi-même l'évangile de la grâce et regarder les autres avec les yeux de la grâce. Dans ce monde où tout semble aller au plus méritant, que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen.